Alors nous en avons fini avec ces. Alors je, ouais, je vais la montrer. Enfin, tu vois, alors nous passons au 1-2, les représentations du temps. Donc là, on va faire un peu de philosophie. Mais tout non mais vraiment on va. Oui, il faut refaire le plan. On va y aller doucement. C'est pas un cours de philosophie sur le temps, hein, mais donner quelques repères et puis de conception. Donc on est dans 1-2, les représentations du temps. Et donc je vais attaquer le problème de la définition du temps en philosophie et en sciences. Mais je vous promets, ce sera pas très compliqué. Hein. Ouais, c'est juste pour vous donner un peu le. Alors, nous vivons en même temps plusieurs années qui se chevauchent les unes sur les autres. C'est l'expérience du temps est complexe, en fait. Nous vivons l'année civile. Certains d'entre nous vivent l'année académique. Nous vivons l'année liturgique. Il y a aussi l'année fiscale. Il y a aussi l'année cosmique. Voilà. Du coup, l'année scolaire, voilà, vous pouvez j'ai toutes les années, tous les temps que vous voulez. Donc, la définition du temps et le rapport personnel et collectif au temps figurent parmi les questions les plus difficiles auxquelles l'humanité se soit affrontée. On peut dire que essayer de saisir ce qu'est le temps, c'est un défi pour la raison. Voilà. Et peut-être qu'en réalité, il faut dire que nous ne savons pas ce qu'est le temps. Voilà. Au double plan, philosophique et scientifique, le temps est l'une des questions les plus difficiles. Peut-être vous souvenez-vous de Zénon, qui, en faisant partir la tortue avant Achille, faisait que Achille ne rejoignait jamais la tortue. C'est ce qu'il appelait le paradoxe du temps. Voilà. Donc, Zénon, les Éléates, Aristote, les Stoïciens, Leibniz, Kant, Heidegger, Husserl. Tous ces grands penseurs ont essayé de penser philosophiquement le temps et les rapports entre le temps dit objectif, le temps subjectif, l'histoire, l'éternité. Alors, en effet, chacun de nous est traversé par des rythmes biologiques. Nous avons le rythme cardiaque, le rythme peut-être essentiel, respiratoire, de l'inspiration et de l'expiration. Le rythme digestif, c'est long une digestion, je crois que c'est 10 heures. Je crois. Hey. Nous sommes traversés par des rythmes cosmiques, le mouvement des astres, les saisons, les semailles, les récoltes, les rythmes sociaux, je reviens pas dessus, mais c'est nos différents calendriers. Nos rythmes psychologiques. Nous avons tous fait l'expérience que certaines heures passent plus vite que d'autres. Ça passe très vite quand je suis avec Cunégonde, moins vite quand je suis devant ma copie. Alors. Des rythmes qui ne concordent pas. Des rythmes qui varient. Il faut remarquer aussi que nous sommes constamment décalés. Normalement, notre parole est moins rapide que notre regard. Parfois, nous sommes atteints d'insomnie, nous n'arrivons plus à dormir. Oui, nous sommes désynchronisés par rapport à tous ces rythmes. Je converse tard le soir par Skype avec quelqu'un qui vient de prendre son petit déjeuner. Oui. Alors, pour s'en sortir, on a essayé de mesurer le temps. Le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, disait Aristote. Bon, on va passer. Mais selon une construction artificielle qui est toujours un compromis entre des données cosmiques jamais concordantes, hein, cycle solaire ou cycle lunaire, voilà, avec des compensations. Cette mesure objective du temps est une donnée essentielle de la vie humaine. Voilà quelques représentations, hein, objectives du temps. Donc le sablier, la montre Gousset. Alors à gauche, le premier qui trouve, il a gagné un carambar. C'est non. Comment on appelle ça? C'est très vieux, ça date de l'Antiquité. C'est un mot que j'aime beaucoup. Oui, à gauche, ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une clepsydre. Voilà. Et ça servait une clepsydre. Clepsydre. Voilà. Et ça servait à mesurer le temps. Et voilà, clepsydre.
Quand la place était vide, l'orateur devait arrêter de parler.
Voilà, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a une place sur le bureau.
On le sait. Voilà, c'est ça. Et alors, sur le bureau d'Armel, vous trouverez cette horloge atomique à jet de césium 133. Voilà. Donc là, vous savez, on essaie de mesurer de plus en plus radicalement le temps. Ouais. Oui. Si, quand on se réveille, quand on sort d'une lecture ou d'un travail quelconque, on se demande quelle heure est-il ? Ouais, on mesure. On se dit bonjour ou bonsoir selon le moment du jour. En même temps, le temps relève de l'évidence de l'expérience humaine. C'est pourquoi il est vexant, hein, parfois d'en être réduit à répondre comme Augustin. Donc c'est le texte qu'on vous a mis, mais j'en lis juste le début. Hein. Augustin disait dans les Confessions, c'est un texte magnifique, très célèbre, qui va vous rappeler des souvenirs de votre terminale. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me pose la question, je sais. Oui, on a une expérience. Si quelqu'un me pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. Le paradoxe du temps. Augustin, vous voyez, pose à la fois un savoir implicite, je sais ce qu'est le temps, et une ignorance explicite, je ne sais plus, dès qu'on me le demande, de donner une définition, de l'expliquer. Pourquoi ? Le temps est une énigme. Pourquoi ? Car on ne peut jamais le mettre à distance de nous-mêmes pour l'analyser. Pour saisir ce qu'est le temps, il faudrait qu'on soit hors du temps. Bon. En même temps, quelque chose de nous l'est, puisqu'autrement on ne pourrait pas mesurer. Bon. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer tout dans les difficultés. Alors, donc vous avez Augustin, vous l'avez reconnu, comme l'affirme Merleau-Ponty, donc un phénoménologue, hein, du XXe siècle, la notion du temps n'est pas un objet de notre savoir, ce n'est pas un objet qu'on peut mettre en face de nous, un objet de notre savoir, mais une dimension de notre être. Une dimension de notre être. Je n'existe pas hors du temps. Alors cette énigme se double d'un paradoxe, nous y reviendrons dans la conclusion, posé par Plotin, un grand philosophe aussi, donc vous avez la statue, un philosophe néoplatonicien, où Plotin a cette fameuse définition, il dit que le temps est l'image de l'éternité. Le temps est l'image de l'éternité. Autrement dit, l'éternité est le modèle du temps. Si le temps est l'image, une image renvoie toujours à un modèle. Il est l'image, Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image, il renvoie toujours. Du coup, l'éternité est le modèle du temps. Le problème, vous le voyez vite, c'est qu'il faudrait donc d'abord définir ce qu'est l'éternité pour savoir ce qu'est le temps. Le problème, c'est qu'on ne peut le faire qu'à partir de nos représentations du temps, puisqu'on est dans le temps. Nous sommes au rouet. Voilà. C'est à cela que s'amusent les philosophes. Oui. Vous savez que pour Augustin, l'éternité n'est pas une durée qui se mesure. L'éternité n'est pas une durée qui se mesure, ni même, comme pour les gens, un présent qui dure toujours. Mais l'éternité, c'est un mode d'être. Un mode qualitatif de perfection. pour Augustin. L'éternité, c'est l'être qui ne change pas, qui est pleinement par lui-même, sans cause extérieure. Par conséquent, pour Augustin, l'éternité se confond avec Dieu. Ce qui existe, c'est l'éternel, c'est Dieu. Oui, ça c'est pour vous montrer la difficulté de ce... Alors, par ailleurs, les changements le progrès des sciences modernes ont particulièrement touché les représentations du temps. Pensez par exemple à la relativité générale avec Einstein. Dans ce cadre de pensée, vous voyez, l'espace, le temps et la matière sont intimement liés, intrinsèquement liés et ont une influence mutuelle les unes sur les autres. Il n'existe pas de mesure universelle du temps. C'est toujours une donnée culturelle qui permet à l'être humain d'organiser son espace et son développement. Pensez par exemple à l'histoire, on s'est remis en question aujourd'hui, mais on a décidé un jour que le zéro, ça commençait à la naissance de Jésus-Christ. Mais quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi on commence à Jésus? On pourrait commencer à Mahomet, on pourrait commencer à la troisième dynastie Ming ou des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est culturel, c'est arbitraire d'une certaine manière. Il y a même des astrophysiciens maintenant, alors je n'ai pas tout compris, hein, donc je vous passe, qui disent que le temps est une illusion, en fait. Ils disent que le temps n'existe pas, finalement. Je n'ai pas compris. Par rapport à ce temps quantifiable, ouais, mesurable, Bergson, je ne rentrerai pas trop dedans, puisque je ne suis pas un spécialiste, mais nous a rappelé que le temps est d'abord d'ordre qualitatif. C'est son concept de durée. C'est ce que nous vivons intérieurement profondément, hein, ce sentiment d'un devenir irréversible qui grandit, hein, de tous mes souvenirs, de toutes mes expériences, ce que Bergson appelle la boule de neige, non, c'est ça? Vous voyez, je voulais simplement vous montrer la complexité de ce temps, mais disons, il y a temps mesurable, temps quantifiable, temps qualitatif, puis cette difficulté de nous extraire du temps. Nous sommes des créatures, nous sommes des êtres temporels. Difficulté de le mettre à distance. Alors, je passe... Alors, voilà, par rapport au sentiment de la durée, vous avez Dali, avec ce qu'on appelle le tableau souvent des montres molles, mais en fait, qui s'appelle persistance de la mémoire. Hein, donc, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il... Il déstructure le temps quantifiable, mesurable, en disant mais le temps, ce n'est pas simplement que de la quantité. Voilà, vous voyez, dans cette espèce de. Il dit aussi la durée, en fait. Et c'est peut-être plus profond pour nous, ce temps subjectif.
Qu'est-ce qu'on voit sur le tableau?
Eh bien, ce sont des montres molles qui reposent sur un arbre, une ça, et puis des formes. Il y a une montre à gousset.
Là, il y a une montre à gousset, c'est le seul objet dur, mais qui se fait dévorer par des fourmis.
Voilà, c'est ça.
Ah. Dali avait la phobie des fourmis. Donc ça montre à la fois la rigidité du temps qui est mis en dérision et en même temps le fait que le temps nous dévore. Dali, vous savez d'où ça vient? Ça vient de scandaliser. Donc, son œuvre, évidemment, est un peu...
Provocante. Mais provocante. Mais vous voyez, elle est très... Enfin, c'est très bien vu, en fait. Alors, je passe parce que là, on avance dans le temps. Et je rentre dans les différentes conceptions du temps, les grandes conceptions du temps qu'il y a, qui traversent l'histoire. Donc, vous avez d'abord le temps, donc c'est ce qu'on dit plutôt le temps cyclique et le temps linéaire. Alors, je commence sur le temps mythique ou cyclique. Ou Aion. Donc il prend appui sur la régularité des grands cycles, surtout annuels, les mêmes événements revenant au même moment. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la crue du Nil, un retour cyclique. Le départ ou le retour des oiseaux migrateurs. Le déplacement des troupeaux en fonction de l'état de la végétation. Vous voyez, cette représentation, elle est typique des civilisations agro-pastorales du Mésolithique et du Néolithique. Voilà. Donc, ce temps cyclique, il peut être plus complexe et il peut être composé d'âges, ce qu'on appelle des âges ou des cycles successifs. Ce qui est intéressant dans le temps cyclique ou métique, c'est que c'est un système de représentation du temps qui induit souvent la nostalgie de l'origine. La nostalgie de l'origine. On voudrait retourner à l'origine parce que c'était mieux. Du temps primordial. Et alors, on va aspirer à son retour par la répétition du rite. Quand on est dans un temps cyclique, un temps mythique, le rite nous permet de nous rattacher à l'origine, vous voyez, de revivre l'origine. Par le rite, les hommes font ce que les dieux ont fait à l'origine. Alors, alors, Aïon, c'est une divinité du temps, une divinité grecque, vous voyez, au cercle enrobant l'univers. Vous voyez, donc Aïon, là, c'est le monsieur que vous voyez là, qui est donc toujours dans un cercle. Et ça veut dire la destinée, l'âge, la génération ou l'éternité. Vous voyez. Donc, mais il est le symbole d'un temps cyclique, voilà, ou mythique. Par le rite, hein, les hommes font ce que les dieux ont fait à l'origine. Et la fin du cycle donne naissance à un autre. Donc souvent les rites de début d'année. Ouais, mais en fait, on est encore très marqué par ça. Hein, oui, voilà. Ou quand on ensevelissait dans certaines tribus de la préhistoire, dans certaines civilisations, on ensevelissait la personne morte en position fœtale. On vous a mis un retour cyclique, la mythique de Gilgamesh. Peut-être vous en avez entendu parler. Hein, donc un mythe mésopotamien. Et voilà, donc c'est le héros roi de la ville d'Uruk qui a vaincu le taureau céleste. Voilà, et qui a mis de l'ordre dans l'univers, etc. Après un déluge. Et donc chaque année, on recommence par un rite, voilà, de sacrifice, de taureau, etc. pour revenir à l'origine. Alors pourquoi je vous ai mis ça, Gilgamesh? Parce que nous retrouvons ces traits mythologiques dans l'épisode du déluge, dans la Genèse. Et la déluge, c'est une décréation pour recréer quelque chose. Alors, c'est réinterprété par la révélation, mais c'est empreint de ces récits cycliques. C'est-à-dire, on va tout recommencer. Les cataclysmes, voilà, sont interprétés comme signe d'un désordre spirituel à réparer par des rituels appropriés. Les mythes, hein, donc c'est vraiment le temps cyclique, ça, le mythe, sont des récits référés à l'origine destinés à transmettre les principes du maintien du bon ordre prévu à l'origine. Donc, vous voyez aussi une conception du temps qui va de catastrophe en catastrophe. Donc, il faut toujours revenir à l'origine pour rebâtir le monde, pour reconstruire le monde, pour éviter qu'il parte à volo ou à la destruction. Dans certaines cultures, hein, comme l'Inde par exemple, vous voyez, ce temps cyclique va prendre l'allure d'un enfermement dans une sorte de roue infernale dont on ne peut plus sortir. C'est ce qu'on appelle la samsara, où les âmes sont prises dedans. C'est un parfum d'ailleurs, c'est très intéressant. Et il faut s'en échapper. Donc, dégradation du monde. Et puis, nostalgie d'un âge d'or originel définitivement perdu. Donc ça, c'est le temps cyclique, temps mythique, vous voyez, qui repose aussi sur les cycles que nous pouvons voir cosmiques ou des saisons. Vous voyez, il y a quelque chose dans l'ordre du temps qui revient sans cesse. La seconde grande représentation du temps, bien sûr, c'est le temps linéaire ou historique, qui lui se présente bien différemment. Il intègre, hein, dans sa représentation l'irruption d'un ou de plusieurs événements fondateurs qui produit du nouveau, avec une distinction nette entre l'avant et l'après. Le temps n'est plus un cycle qui revient au même point, mais une histoire qui se développe en continu, de façon irréversible, et qui tend vers sa fin, encore inconnue. Vous voyez, c'est la frise, hein, c'est la flèche. Allez, ouais, non, ouais. C'est pas le cercle, hein, vous voyez bien. Alors, on ne sait pas où ça va aller. Mais ça... Alors, bien sûr, je fais une petite parenthèse, mais cette représentation caractérise la lecture biblique du temps. Cette conception linéaire du temps est judéo-chrétienne. Elle s'appuie sur la mémoire des événements advenus depuis le commencement. Dans cette représentation du temps, le récit remplace le mythe. Et nous retrouvons la narration. Les fêtes agraires ou pastorales se chargent d'une histoire. Par exemple, vous savez que la fête de Pâques, d'abord, le substrat de la fête de Pâques, c'est la célébration des prémices agricoles. C'est d'abord une fête agraire. C'est d'abord une fête pastorale, la Pâque. Elle va devenir le mémorial de la sortie d'Égypte. Donc, un événement dans l'histoire qui entraîne avant, et donc un récit. La Pentecôte, hein, c'était à l'origine la fête de la fin des moissons, mais qui va devenir la fête du don de la loi. Et la fête des tentes, hein, elle était liée au vendange, elle rappelle le temps passé au désert. Donc, vous voyez, le temps cosmique, cyclique, est repris, ouais, dans la révélation judéo-chrétienne comme un temps historique, un récit, un événement qui ouvre une histoire, un futur, etc. Alors, en plus, cette histoire devient une histoire sainte et salvifique. En faisant mémoire de ce que Dieu a donné, de la manière dont il a sauvé, on se souvient de l'alliance et de l'amour de Dieu, de sa promesse. Et c'est parce que Dieu a donné et aime son peuple qu'il lui donnera encore et le sauvera encore. Donc, on verra à la fin une autre conception encore. Bon, je passe tout ça. Oui. Alors, on peut affiner, c'est une distinction importante, dans ce temps linéaire ou historique, on peut affiner encore en distinguant le chronos, C-H-R-O-N-O-S, et le kairos, K-A-I-R-O-S. Alors, le chronos, c'est facile, hein. C'est Chronos, c'est un dieu de la mythologie grecque qui personnifie le temps, et notamment les 12 heures du jour et de la nuit. Donc c'est le temps quantifiable et linéaire. C'est le temps quantitatif linéaire, vous voyez, c'est la frise. Alors, c'est un temps objectif, mesurable, et il est le même pour tout le monde. Vous voyez, c'est Chronos, c'est le chronomètre, voilà, chronologie. Voilà, c'est, on mesure, c'est objectif. Et ça appartient bien au temps linéaire et au historique. Mais dans ce temps historique linéaire, il y a une autre manière de vivre le temps qu'on appelle le kairos. C'est un terme grec. Ah ben oui. Alors je vous laisse, vous l'avez là écrit. Je vais revenir, oui, regardez bien cette petite figure, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, qui en grec signifie le temps favorable. Le temps favorable. Voilà. Donc contrairement à Chronos, qui est une version plus quantitative de l'histoire linéaire, plus matérielle de l'existence humaine, le kairos correspond à une autre approche plus spirituelle, plus intérieure du temps, plus qualitative. C'est le point de basculement décisif, avec une notion toujours d'avant et d'après, on est bien dans le temps linéaire, hein, historique, où quelque chose de spécial arrive. Le kairos, c'est le temps vécu sous le mode du moment opportun, favorable. C'est l'instant T de l'opportunité. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Kairos a donné en latin opportunitas. L'opportunité, c'est saisir l'occasion. Alors, c'est un temps qualitatif. Il ne se mesure pas. C'est une dimension du temps qui va créer de la profondeur dans notre existence. C'est quoi un temps kairos ? Eh bien, c'est la personne avec laquelle j'engage là maintenant la conversation. C'est le moment où votre vie a basculé. Le kairos, en fait, c'est très profond parce qu'il opère la rencontre de deux. C'est des fois, ça nous pose des problèmes, c'est celui de l'action et celui du temps. Ce n'est pas d'agir dans le temps, vous voyez, comme le temps mesurable et quantifiable, mais c'est agir à temps. Le kairos, c'est le temps de la réponse à donner. Ou comme le rappelait Armel aussi, c'est le temps de l'artiste qui attend le moment de l'inspiration. Et donc, il va la saisir. Du coup, Kairos est représenté par ce petit dieu à la longue mèche. Pourquoi ? Parce que la mèche se présente et il faut la saisir. Parce que quand il se retournera, eh ben, il y a le crâne rasé et on ne peut pas saisir la mèche. Et le temps sera, le Kairos sera passé.
Une balance.
Et il tient aussi une balance. Eh bien oui. Donc, n'hésitons pas à saisir la mèche de l'opportunité. Voilà, bon, j'arrête là, parce qu'autrement, ça va être bon. Alors, encore moi. Le temps est supérieur à l'espace. Voilà. En fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que vous allez voir avec Armel aussi que François, le pape François nous a beaucoup inspiré. Et là, je voulais voir, pour, bon, là, j'ai donné des grandes définitions du temps, mais pour aller encore plus dans la distinction, de saisir un peu ce que c'est que le temps et comment nous vivons le temps, et bien, c'est bien de le comparer à autre chose. Et c'est pour ça que c'est. Je reprends l'expression de François, le temps supérieur à l'espace. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il dit ça ? Alors j'arrêterai simplement le temps supérieur à l'espace, parce que dans la prochaine séance, ils pourront vous dire en quoi l'espace parfois est supérieur au temps. Ouais, je ne voulais pas empiéter. Parce que... voilà. Alors dans votre livret, on vous a mis les différents textes où le pape François a parlé du temps supérieur à l'espace. Donc vous avez dans... trois grands textes, hein, donc la joie de l'Évangile, Amoris Laetitia, et puis Laudate aussi. Alors, je ne vais pas reprendre les textes, vous les lirez à tête reposée quand vous aurez du temps. Voilà, Dieu sait quand. Voilà, Dieu sait quand. Exactement. Alors, on connaît tous désormais cette expression célèbre du pape François. Elle va nous permettre d'aller plus avant dans ce qui qualifie l'homme dans son rapport au temps. Alors, la comparaison avec l'espace, hein, nous semble pertinente pour dégager quelques traits saillants de notre rapport au temps. Leibniz définit l'espace comme l'ordre des coexistences possibles. L'espace est l'ordre des coexistences possibles. Alors, je vais prendre plein d'exemples. Vous allez voir, c'est tout simple. Ben, nous sommes plusieurs à être dans cette salle. Il y a plusieurs que... L'espace est le lieu des coexistences possibles. Elle est grande, on a pu vous mettre... Alors, voilà, on aurait été moins nombreux, on aurait pu loger dans un espace plus petit, on aurait été plus nombreux dans un espace plus grand, mais on peut nous loger. Ouais. C'est l'espace de, hein, l'espace de la maison peut être organisé, les meubles bien rangés, la voiture stationnée dans le garage. Vous voyez, tout le monde coexiste, hein, par rapport à l'espace. Allez, par exemple, je peux embrasser d'un regard tous les livres de ma bibliothèque, mais je ne peux en lire qu'un à la fois. Allez, bon. On possède son espace, par exemple son appartement. Et on peut installer une caméra ou une porte blindée pour le sécuriser. L'espace permet d'accumuler. Ça, c'est étonnant, quoi. Quand on déménage régulièrement, donc pendant une période de ma vie, j'ai déménagé souvent, mais alors je me suis rendu compte qu'au bout d'un an, qu'est-ce qu'on pouvait déjà accumuler, quoi, dans l'espace, quoi. Et alors, plus on nous propose un large espace, alors plus on va en mettre. Et il nourrit la volonté de tout contrôler. Je vais revenir là-dessus. Le temps, en revanche, n'est pas l'ordre des coexistences possibles. Le temps, c'est l'ordre de la succession. Le temps ne me donne qu'un instant à la fois. Comme je vous le disais, je ne peux lire qu'un livre et même qu'une ligne à la fois. Je ne peux faire qu'une chose après l'autre. Alors ça, c'est Kant, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il y a des phénomènes qui se déroulent dans le temps sans passer par l'espace. C'est en cela que le temps est supérieur à l'espace, d'une certaine manière, c'est que le temps est premier par rapport à l'espace. Ça, c'est Kant qui le montre. Par exemple, la mémoire. Mais alors, c'est le grand problème de tout ça. Où est l'espace de la mémoire? La mémoire n'a pas d'espace, elle est spirituelle. On ne va pas vous ouvrir le cerveau, on ne va pas trouver un jour des grandes poches avec tout ce que vous avez accumulé. Et d'ailleurs, la mémoire filtre. On ne retient pas tout, d'ailleurs. Bon. Et le rêve aussi. Mais il n'y a pas de phénomène spatial qui ne soit aussi temporel. Il n'y a pas d'espace sans temps, en fait. Il peut y avoir des phénomènes temporels sans espace, mais vous ne trouverez jamais de phénomènes spatiaux sans temps. C'est encore un de vos illustres co-religionnaires, Ilina, qui nous a montré ça. C'est Kant. Ouais, bon. Mais je ne rentre pas dans parce que c'est voilà, bon. Ouais. Mais il y en a d'autres le contrediront, mais enfin, c'est pas le moment de... Voilà. Alors, j'ai déterminé en trois grands points. Le premier point, c'est l'espace est le lieu de notre puissance, le lieu de la puissance, le temps de notre impuissance. Et c'est en cela que le temps est supérieur à l'espace pour le pape François. Le temps prime l'espace. Pourquoi le temps prime l'espace? Parce qu'il faut du temps pour parcourir l'espace. Et qu'il ne faut pas nécessairement d'espace pour parcourir le temps. Comme je vous le disais, l'espace permet la coexistence de plusieurs choses. Et de fait, l'espace est un lieu de possession. Alors que nous allons voir le temps qui file, qui passe entre nos doigts, hein, toutes les expressions, le temps est un lieu de pauvreté et même d'appauvrissement. Puisque l'espace permet la coexistence des êtres, il est donc le lieu du contrôle et donc des classements, de la fixité. Hein, en permettant la coexistence des choses, l'espace permet leur accumulation, quand le temps suppose au contraire la patience et la perte. Tout s'use. Me revient à la mémoire ce magnifique vers de Surena, de Corneille, une de ses dernières tragédies. Tout passe, tout casse, tout lasse. Bon. L'évangile, hein, comporte différentes paraboles qui montrent que l'accumulation des richesses ne résiste pas au cours du temps. Ne serait-ce qu'à cause de la mort de son propriétaire. Souvenez-vous, c'est très très beau. Celui qui construit des hangars, là, des réserves, pour mettre tout son bien. Pauvre fou que tu es, ce soir on te réclame ton âme. Vous voyez, distinction, espace, accumulation, classement, etc. Et le temps. Aujourd'hui, avec la crise immobilière, vous voyez, par exemple, la richesse se marque souvent en espace. Le riche, c'est celui qui possède un ou plusieurs appartements spacieux ou des résidences secondaires. Alors que le pauvre va vivre dans des logements étriqués, voire sur une bouche de chaleur. Parce qu'il est un lieu de possession et d'accumulation des richesses, l'espace permet le contrôle de celles-ci. Il est possible de survoler l'espace pour s'en faire l'image complète aujourd'hui. C'est tout le sens de la cartographie. Vous voyez, la cartographie, c'est la maîtrise de l'espace. Pensez au GPS. Je sais tout le temps où je suis. Je me situe dans l'espace. Je peux être situé à tout moment dans l'espace. C'est le signe de notre contrôle, notre maîtrise. On le sait aussi, hein, d'une manière géographique. Vous voyez, un pays se développe quand il maîtrise le territoire, c'est-à-dire quand il maîtrise l'espace, avec les voies de circulation, autoroutières, etc. Et vous ne maîtrisez pas une récolte s'il a plu ou s'il y a une maladie. Vous voyez, le temps, c'est complètement différent. Bon. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, Dieu, normalement, Dieu seul est capable de survoler le temps, de voir tout d'un seul coup. Oui, il y a quelque chose de limitation divine dans notre maîtrise de l'espace qui est de tout saisir, oui, de tout contrôler, de tout maîtriser. Bon. Très intéressant, en fait, la réflexion sur l'espace et le temps. Du coup, si l'espace est le lieu du contrôle, le temps va être celui de la confiance. Notre société excelle dans le contrôle des espaces. Dans les lieux de réunion publique, comme dans un stade, pour une finale, pour un match, les entrées, les sorties sont marquées. La place de chacun dans le stade est prédéfinie avec des issues normales et des issues de secours. L'ensemble est surveillé par des policiers, des caméras. Même maintenant, à Vénas, qu'on peut avoir lors de certaines célébrations des espaces sécurisés. C'est terrible. Chacun de ces moyens permet d'agir sur un maximum d'espaces et de personnes à la fois. Alors, ça n'empêche jamais les terroristes, hein, malheureusement, mais on contrôle. L'espace, c'est le contrôle. Du coup, notre société fantasme de partout pour parfaitement contrôler ces espaces avec des caméras partout, des images de tout et n'importe quoi sont collectées sur Instagram. Aujourd'hui, il y a même des drones privatisés, hein, qui peuvent survoler des espaces et contrôler des choses. Il y a surpoli, mais en Chine, hein, j'ai lu un article la dernière fois, voilà, la reconnaissance faciale, il y a un contrôle de l'espace qui est radicalisé. Quoi. Mais ça arrive à chez nous à grands traits. Hein. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes plus libres. Alors que le temps, lui, eh ben, il se contrôle très mal. Le temps, et nous y reviendrons avec Armel, est par définition le lieu de l'inattendu, de la surprise. Hein, on sait que prévoir, c'est le métier le plus dangereux parce qu'on se trompe quasiment à tout point. Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément ? Est-ce que privilégier le temps sur l'espace suppose l'acceptation d'une certaine fragilité ? Celle de perdre le contrôle total de la maîtrise. Ça implique d'accepter de se désapproprier du résultat de l'action réalisée, ou même de ce qu'elle sera. Accepter un résultat différent de celui qui était attendu. Et c'est précisément cette fragilité qui fait place à l'émergence du nouveau. Tant qu'on reste dans la logique de la maîtrise et du contrôle absolu, on reste dans la répétition du déjà connu. La création n'a pas de place dans la plénitude et la perfection. Elle prend forme quand on laisse un certain vide. « Des fois, on n'aime pas être dérangé par, une, par la personne qui arrive, vous voyez, ou le grain de sable. Mais pourtant, c'est bon pour nous, en fait. Vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une catégorisation spatiale de nos existences, du maîtrise, de la contrôle, du contrôle, etc. Tout bien ordonné, tout bien rangé. Ça, c'est fait comme ça. Ça se fera comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous ? C'est fou, ça. Bon. Alors... À l'inverse de l'espace, le temps ne peut pas se posséder. Fabriquer est une manière de posséder l'espace, tandis que créer est une manière d'initier un processus. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, c'est Adjadj qui faisait remarquer ça avec les techniques, on fabrique des enfants. On ne conçoit plus des enfants. La conception est de l'ordre de la création. Et donc de l'inattendu, de ce qui arrive. Non, on veut fabriquer des enfants. C'est-à-dire, et puis qui est tels yeux. Vous voyez, on est dans une logique spatiale. Contrôle, maîtrise. Enfin, si on continue à faire des enfants, d'ailleurs. Mais c'est un autre problème que nous n'avons pas eu le temps d'intégrer. L'espace a partie liée avec le pouvoir, je développerai pas ça, mais vous pouvez noter, réfléchir dessus, l'espace a partie liée avec le pouvoir, le temps est plutôt de l'ordre du service. L'espace se limite de manière fixe, l'espace peut s'enfermer, il y a un dehors et un dedans. Le temps, lui, se délimite de façon plus fluide. En conséquence, les classements, les exclusions sont affaires d'espace. Au contraire, les flux, les rencontres sont dans le temps. Faire primer le temps sur l'espace revient donc en fait à faire primer la confiance sur le contrôle. Enfin, l'espace fixe et où enferme les êtres et les choses, le temps est croissance et reprise. C'est le troisième point. Les discriminations fonctionnent de la même manière en classant les gens dans des catégories supposées invariables. Les juifs sont riches, les femmes sont trop affectives. Les classifications s'aggravent en fonction de l'espace, car lui est un lieu de fixité. Une carte ne se modifie pas, ou très rarement. Le temps, au contraire, impose le changement. Ouais. Hein, la taxinomie, la science des classifications, c'est, peut-on dire, la science de l'espace. On classifie les espèces, etc. Mais nous aussi, nous sommes très forts pour classer les gens dans telle catégorie ou telle autre. Et du coup, on les spatialise, on les réifie. Et ils ne pourront jamais changer, ou ils seront toujours comme ça. Nos discriminations s'accompagnent toujours du « tu ne changeras jamais ». Inversement, le temps relativise tous les classements, parce qu'il modifie sans cesse tout ce qu'il touche. Voilà. Un jour, nous avons eu des cheveux noirs, n'est-ce pas, Armel ? Moi aussi. Eh bien, le temps les a blanchis. Mais la beauté est inchangée. Ouais. La chenille, pour reprendre un exemple qui va parler à beaucoup, la chenille finit par subir une mutation et donner naissance à papillon, notre espèce. Les relations évoluent et celui que le classement avait enfermé dans une catégorie se révèle plus complexe que prévu. D'ailleurs, on est nous-mêmes très forts pour s'enfermer dans une sorte de catégorisation spatiale en pensant que nous ne changerons pas ou ne changerons plus ou c'est foutu ou c'est fini. Ou voilà. Ça rejoint la deuxième citation du pape, vous verrez, hein, qui concerne l'éducation. C'est Armel qui l'a, qui est très, très intéressante. Donc, elle est dans Amoris Laetitia, où le pape dit que voilà, l'éducation ne consiste pas à enfermer l'enfant dans une boîte, qu'elle soit matérielle ou conceptuelle, mais à lui donner les moyens de grandir, de changer. Et c'est là où il reprend son expression, le temps est supérieur à l'espace. L'enfant réel n'est jamais ce que les parents avaient planifié. Le membre réel n'est jamais ce que les formateurs ont planifié. Et c'est tant mieux. Puisqu'il est le lieu du changement, le temps est indispensable au parcours et à la réparation. La blessure se marque dans l'espace par une cicatrice, si elle est physique, par une perte, par une absence. Il faut du temps, et c'est positif, pour combler la blessure et réparer les dégâts. Il faut en particulier du temps pour pardonner. Alors que la fixité de l'espace enferme l'autre dans sa faute comme une prison. Je suis très frappé, j'ai eu plusieurs fois, ça m'est arrivé une ou deux fois, de gens qui ont vécu un deuil, voilà, on perd son papa ou sa maman, et tout de suite on est repris, oui, c'est le travail, ou alors parce qu'on est chrétien, mais tout va bien, ou il est au ciel, etc. Et puis au bout de quelques temps, la personne s'effondre, ou il y a une fatigue, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de pas prendre le temps de digérer d'une certaine manière le manque, l'absence, vous voyez, une relation qui s'est cassée, qui s'est brisée, etc., malgré l'espérance qu'on peut avoir. Et je trouve que de plus en plus, certains événements humains importants, fondamentaux, nous passons dessus, et 20 ans, 30 ans après, ça explose. La primauté du temps sur l'espace peut jouer aussi dans un rapport à soi. Nos contemporains se mettent en scène sur les réseaux sociaux, actuellement en accumulant côte à côte images et vidéos. Le tweet, voilà. Cette accumulation simultanée revient à transformer le temps en espace. Vous voyez, comme si on retrouve les identités simultanées. Vous voyez, tac. Cette opération donne le sentiment de contrôler sa propre vie. Et pour les autres, on est prié de venir voir les images. Voilà. Notre époque, en particulier à travers son idolâtrie de la jeunesse, rêve de fixité. Devenir et changer est une déchéance. Ce rapport à soi, où l'on doit toujours rester dans la même ligne, ne pas prendre de poids, le même visage, à la peau bien, bien ferme, etc., ouais. Nous esclavagise au regard des autres. On retrouve la fixité. Voilà. Au contraire, la liberté se vit dans le temps. Ouais. Elle est le lieu où tout peut recommencer, où un acte peut être posé d'une advenue tout à fait nouvelle, qui dépasse tous nos conditionnements, tous nos déterminismes, toutes nos fixités. C'est le miracle de la liberté, d'une certaine manière. Ce changement perpétuel que le temps nous impose, vous voyez, il est indispensable pour progresser, pour faire advenir du nouveau, pour sortir de ses propres classements, pour sortir de ses cercles d'amis, ses cercles, voilà, etc., etc. Au contraire, on a l'impression que les réseaux sociaux, paradoxalement, nous enferment dans des cercles étroits. Et du coup, nous fixent encore, vous voyez, on spatialise. Bref, comme dirait le pape, notre époque a besoin de réapprendre à vieillir. À vieillir. Je termine. Faire primer l'espace, eh bien, une attitude de riche qui permet l'accumulation, le contrôle et la fixité. Faire primer le temps est une attitude de pauvreté, de confiance qui laisse à l'autre la liberté d'innover. Et je laisse la parole à Armelle. Ah oui, j'ai encore quelque chose qui se passe. Ah oui, et voilà, pour montrer le temps est supérieur à l'espace, je voulais vous montrer ce tableau que vous connaissez sûrement, d'Holbein, qu'on appelle les ambassadeurs et qu'on appelle aussi une anamorphose. Alors, vous voyez, ces ambassadeurs, ils sont français, hein, ils sont à la cour de je ne sais plus, ils sont à la cour d'Espagne ou à la cour de Londres. Et donc, vous voyez, ils ont toutes les dimensions de la spatialité. Ils sont riches, hein, ça se montre par leurs vêtements, etc. Ils accumulent les choses de richesse. Tout est bien classé, tout est bien ordonné, maîtrisé, il y a une map monde, etc. Et il y a cette anamorphose. L'anamorphose, c'est que normalement, vous voyez, quand on est sujet, c'est nous qui regardons le tableau, qui le visons, hein, et en fonction de notre déplacement, qui déterminons ce qu'est le tableau. L'anamorphose, c'est le tableau qui nous regarde et qui nous force à nous déplacer pour voir l'image. Et quand on se déplace d'une certaine manière, voilà cette tâche que vous voyez, voilà ce qu'elle est. C'est un crâne. En fait, ce tableau est une vanité. Vous maîtrisez, vous fixez, vous êtes riche dans l'accumulation. Vous avez oublié le temps, vous mourrez. Souviens-toi que tu mourras. Bon, voilà. Voilà. Le temps est supérieur à l'espace. Vous voyez la tâche qui vous... Enfin, je ne peux pas, j'ai le micro là. Voilà, ça. Voilà. Et en fait, pour une fois, ce n'est pas le spectateur qui vise le tableau, mais c'est le tableau qui vous vise. Et vous voyez bien, toutes les qualités spatiales qu'on a envisagées sont représentées. Ils ont simplement oublié qu'ils étaient dans le temps et qu'ils allaient mourir. Et c'est ce que vous nous... Oui, mais la musique, c'est de l'écriture mise en... Vous voyez, en place, fixée. Tac, c'est des notes qui se suivent, qui se suivent. C'est l'instrument, vous voyez. Bon. Enfin, disons que c'est moi, hein, j'ai trouvé que ce tableau exprimait bien ce que veut dire le pape François. Voilà.